France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout. Vous.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de ne rien dire.
À chaque fois qu'il présente son dernier film, oui, il demande au projectionniste de monter le son. C'est son rapport physique au cinéma jusqu'au spectateur pour l'impact émotionnel, l'impact des mots, des sons sur ces images. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue.
Nadav Lapid donne des coups de caméra comme on donne des coups de pied, écrit Juliette Binoche dans la préface d'un livre qui vous est consacré, Nadav Lapid, description d'un combat aux éditions de L'Œil. Bonjour Nadav Lapid.
Bonjour, bonjour.
La formule même lapidaire vous va bien, cinéaste israélien désormais installé en France, auteur de 5 longs-métrages, Le Policier, l'Institutrice, Synonyme, Le Genou d'Aed et Oui, le dernier Oui, qui posait cette question affreusement d'actualité, comment continuer à être artiste face à l'horreur du présent. Oui, parler de soi à travers les films, comme tous ceux que vous avez choisis ce matin, de Carax à Kiarostami. C'est votre carte blanche, Nadav, et merci d'être là. Enfin, les sorties de ce nouveau mercredi de cinéma, du rural, du fantastique, une croisière et un alter ego. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Je suis arrivé en France pour fuir Israël. Fuir cet état méchant, abominable Dieu, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur.
Aucun pays n'est tout ça à la fois. Choisis.
Qu'est-ce que tu vas faire ici ?
Je ne sais pas. Je serai français.
La France, la France. Tu connais qui comme français à part nous deux ?
Céline Dion. Ne pas relever la tête. Ne pas relever la tête.
En France, personne ne te demande quelle est ta religion. Parce qu'il n'y a pas de religion.
Abjuré, parjuré, abhorré.
Parce que Dieu n'existe pas.
Extrait de votre film Synonyme, Nadav Lapid, Yoav, un jeune Israélien atterré à Paris, avec l'espoir que la France et la langue française le sauveront de la folie de son pays. Et vous, Nadav, qu'est-ce que la France vous a apporté ?
La France m'a apporté beaucoup de joie, beaucoup de souffrance aussi, mais surtout, la France m'a apporté le cinéma. Et j'ai toujours l'impression que, comme sans être pompé, mais comme humain, je suis né en Israël, mais comme cinéaste, et dans les rues de Paris.
Avec une admiration pour trois conquérants, Napoléon, Godard et Zidane.
Oui, le triangle.
Pas des Bermudes.
Votre vie est un film, tour à tour, très jeune poète, militaire, étudiant, journaliste, désormais cinéaste et critique de votre propre culture. Et cette question, je le disais, comment continuer à être artisan, artiste, face à l'horreur du présent, en le racontant ?
Oui, enfin, je pense que, si on parle de Oui, par exemple, un film qui était fait, évidemment, en lien avec l'actualité sanglante israélienne à Gaza, etc. Mais je pense que, regardant l'état du monde aujourd'hui,
oui,
cette question de est-ce qu'on est capable de dire encore, de dire non au pouvoir ? Qu'est-ce qu'on fait quand le jour devient une nuit très très sombre ? Et quand notre pays, notre société glisse au bout d'un abysse moral. Et du coup, comment on trouve toutes sortes de compromis pour ne pas faire ce qu'il fallait faire, pour ne pas résister. Comment les noms qu'on devait dire devient peut-être et puis pourquoi pas. Je pense que ces questions, j'imagine que pas mal parmi nos auditeurs, vu l'état actuel de la France et ce qui peut-être va se passer ici dans un an, se posent la même question et savent que très bientôt, la question du oui va frapper sur leur porte, si ce n'est pas déjà le cas.
Donc en parlant d'Israël, on parle du monde entier ?
Oui, oui, enfin, moi je pense que finalement, pour moi, j'utilise souvent des moments de ma propre vie, de ma propre biographie, j'utilise la société où je danse, je pense, une sorte de danse de haine et de désir, de fascination avec ma seule patrie, Israël. Mais finalement, pour moi, tout cela, c'est une fenêtre pour regarder le monde entier.
Tout comme vous, les cinéastes que vous avez choisis dans cette carte blanche sont les auteurs radicaux, exigeants, qui parlent tous à la première personne, à l'arrivée et au travers des autres. On va peut-être avoir un portrait de vous, Nadav, à commencer par lui, Pier Paolo Pasolini, Théorème, 1969, avec Terence Stamp, Silvana Mangano et Laura Beatty.
Devo partire. Domani.
Ma ciò che invece tu stesso mi hai dato, l'amore nel vuoto della mia vita, lasciando, lo distruggi tutto. Che può sostituirti, credo che io non potrò più vivere.
Io non riesco più a riconoscere me stesso. Che cosa sarà di me d'ora in poi?
Hai distrutto semplicemente l'idea che io ho sempre avuto di me.
Un jeune homme d'une étrange beauté s'introduit dans une famille de la haute bourgeoisie milanaise. Le père, la mère, le fils et la fille succombent à son charme. Son départ impromptu ébranle tous les membres de la famille. Crise mystique, délire artistique. Ce thème de celui par qui le scandale arrive, c'est un thème qui a ensuite beaucoup influencé le cinéma, Nadav.
Oui, pour moi c'était étrangement beau que vous avez choisi, j'imagine par hasard, de commencer avec cette bande-annonce de Synonyme.
Oui.
Parce que c'était justement à l'époque... à la vraie période des synonymes dans ma vie, où je suis tombé complètement par hasard sur Théorème.
Oui.
À l'époque, j'ai erré dans les rues de Paris, et perdu, égaré, souvent affamé, et un ex-soldat à la fois ignorant et hébété, avec un certain dédain à l'époque, et ignorance totale par rapport au cinéma. Je rêvais d'être surtout écrivain. Pour moi, le cinéma était l'art pour les gens qui manquent de l'imagination, etc., etc. Et par un pur hasard, je suis tombé sur Théorème. Vraiment, je n'avais pas la moindre idée ce qui m'attend. Et à peu près, je ne sais pas, 45 minutes, 50 minutes après la fin du film, je me suis trouvé dans une station de métro qui ne faisait pas du tout partie de mon trajet. Je n'ai aucune idée comment je suis arrivé là-bas. En train de gratter le plan. J'ai une carte de Paris, comme ça, du mur. Et je ne sais pas du tout ce qui m'est arrivé pendant ces 50 minutes, mais ces 50 minutes ont fixé mon destin. Ces 50 minutes ou ce film, c'est vraiment la raison, d'une certaine manière, la raison pour laquelle je suis assis ici. Parce que c'est pendant ces 50 minutes que le cinéma a pénétré mon corps et mon âme, a envahi et jamais parti. Donc, d'une certaine manière, le film m'a fait. Plus ou moins, c'est que cet étranger est fait à
oui,
cette famille. M'a
oui.
ébranlé, m'a secoué, m'a changé pour toujours.
Parce que c'est un pamphlet pour la liberté, en fait, ce
oui,
film.
Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, je fais plus tard un court-métrage qui s'appelle Pourquoi, Why, Lama, en hébreu, qui utilise un peu ce moment-là, qui commence avec un cinéaste qui est interrogé, un cinéaste de sa quarantaine qui est interrogé par le rédacteur en chef des Cahiers du cinéma. Une revue dans les films qui passe en ligne parce qu'il n'y a plus de cinéphiles au monde et qui lui demande de choisir un moment du cinéma qui a bousculé sa vie.
Oui.
Et là, bon, dans les films, c'est un peu différent. Le jeune spectateur qui deviendra le cinéaste et un soldat, etc. Mais dans cette émission, quand vous m'avez demandé de faire le choix, je voulais m'empêcher de choix évident. Donc il n'y a pas un Godard, il n'y a pas un Lynch, etc. Mais de ça, je pouvais pas me priver de...
Un auteur français, Alain Guiraudy, et son film, s'il en est le plus frontal, le plus radical, vous avez choisi Rester vertical, avec Damien Bonnard en son centre, Léo, un réalisateur en repérage, à la recherche du loup et de son prochain film, rencontre une bergère. Ils ont un enfant, se retrouvent avec ce bébé sur les bras, et il va peu à peu vivre le déclassement social.
Concentrez-vous. Vous allez penser à un lieu. Qu'est-ce que vous voyez ?
Un désert très sec.
Et qu'est-ce qu'il y a dans ce paysage ?
Une jeune femme.
Cette jeune femme, elle est seule ?
Oui. Enfin, non.
Il est nerveux en ce moment, c'est à cause des loups. Tu fais quoi de beau dans le coin ?
J'aime beaucoup ce cos. Et puis, je m'intéresse aux loups, justement.
Et tu t'y intéresses comment ?
Bah, je suis comme tout le monde. Ça me fascine et ça me fait peur, mais j'aimerais bien en voir.
Rester vertical, Alain Guiraudy, Nadav Lapide, rester vertical finalement dans un monde de plus en plus horizontal, c'est presque comme votre oui, quoi.
Je pense que rester vertical, évidemment, il n'a pas la même perfection ou la même maîtrise de L'Inconnu du lac,
oui.
qui est un film gigantesque. Mais moi, j'ai une telle admiration pour cette liberté,
oui.
pour cette férocité, pour ce chaos, enfin, un film étrange, un film déplacé, un film qui ne peut pas se résumer. Enfin, on ne sait pas comment raconter ce film. Il n'y a pas aucun synopsis qu'on vient au film.
Oui, c'est vrai.
Et donc, pas du tout racontable. Et je pense que le cinéma, en général... Bon, d'une certaine manière, je n'ai pas le droit de dire du mal du cinéma français parce que je suis un...
Pourquoi ?
Parce que je suis un invité, je suis un peu un guest. C'est ce pays m'a...
Il y a plusieurs cinémas français.
Et ce pays m'a bien accueilli, m'a bien traité, il ne faut pas être ingrat.
Heureusement qu'il y a des Guiraudis dans le cinéma français.
Oui, mais je pense que, justement, je pense que le cinéma en général, le cinéma français a énormément besoin d'encore de Guiraudis, encore de films comme rester vertical. Pour moi, on ne fait pas un film pour étaler des bonnes idées évidentes avec des bons plans évidents. Et je pense que ce film-là fait tout le contraire. Il est à la fois sophistiqué et primitif. Il est toujours, toujours mystérieux. Et il y a Damien Bonnard, évidemment. Il y a des acteurs qui sont magnifiques et en même temps, ils sont aussi des modèles. Enfin, moi j'oublierai jamais ce film, ni son début. Ni sa fin.
De la naissance à la mort, en fait. Parce qu'il filme un film, un accouchement face caméra. C'est un film sur la paternité, sur la liberté, sur la création, sur tellement de choses. Après Guiraudy, alors là, on va passer à un autre Français qui était à votre place dans ce studio, qui évoque aussi la paternité encore elle dans ce film Annette, c'est Léo Scarrax, qui a d'abord hésité à faire un film sur un mauvais fils. Los Angeles de nos jours, Henri est un comédien de stand-up, c'est Adam Driver à l'humour féroce, Anne, une cantatrice renommée internationale, c'est Marion Cotillard, ensemble sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour, la naissance de leur premier enfant Annette, une fillette mystérieuse, au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie. Has changed me. What I see in her is obvious. What she sees in me is... It's a little more puzzling. One, two, three, four! Sur la musique des Sparks, Annette, les deux frères californiens à l'origine de ce film, et la première comédie musicale de Léo Scarrax, même s'il y a eu des séquences musicales dans ses autres films, il dit « Le genre musical donne au cinéma une autre dimension, espace, temps, musique, et cela apporte une liberté extraordinaire, exactement comme dans votre film, oui, Nadav Lapide. »
Oui, et j'ai découvert ce film à Cannes, c'était 2021, juste après le Covid. Moi-même, j'avais un film à la compétition, Les Genoux d'Aide.
Oui.
Et il y avait plein de bons films cette année, France, Dumont, Titan, je pense qu'ils ont... Il y avait Memoria, etc. Pour moi, c'était évident que ce film de Carax devait gagner la Palme d'Or cette année. Enfin, moi, je suis ébloui, au-delà de tout, par le charisme du film. Enfin, je pense que faire un film aussi charismatique, où vraiment chaque seconde dégage ses charismes, et un film qui est à la fois une forme d'opéra, mais aussi un petit poème intime, qui est tellement grandiose et magistrale et parfois même pompeux dans le bon sens, mais qui est aussi extrêmement personnel. Et tout cela avec la mise en scène, oui, c'est un film qui m'a beaucoup... Enfin, j'ai beaucoup appris de ce film-là. Je pense que, oui, il est très différent, mais il y a des gestes, il y a des réflexions que je dois à Carax.
C'est un film aussi qui dit que l'art ne sauve pas.
Oui, vous savez, je pense que toute la vie, on est en train d'osciller entre l'optimisme et le pessimisme. Oui. C'est-à-dire, on dit, c'est mieux de dire que l'art ne sauve pas à la fin d'un film comme Annette.
Vous auriez envie de faire une vraie comédie musicale, enfin une vraie, vous voyez ce que je veux dire, il y a tellement de musique dans vos films déjà, mais est-ce que le genre de la comédie musicale vous tenterait?
Oui, enfin, je pense que oui, c'est déjà une sorte de petite comédie musicale ou tragédie musicale, comme on l'a nommé, mais ça m'étante, enfin, comme en western m'étante aussi, mais tout m'étante pour les miettés pour l'exploser,
ouais, bah
et puis
oui.
pour le reconstruire.
Mais il y a un couple d'artistes, c'est important, c'est un thème important, qui est un thème de oui, et puis qui est un thème aussi dans votre vie, avec votre femme actrice, si je puis dire.
C'est vrai, qui joue l'ex-amoureuse dans Oui,
ouais.
J'envie tous les psychologues d'analyser.
Mais c'est un thème passionnant, parce qu'il y a une vraie jalousie entre eux dans le film, film Annette.
Oui, c'est vrai.
Alors que dans Oui, elle se sacrifie plus pour lui. C'est lui le véritable héros, non ?
C'est lui le véritable héros, le véritable salaud.
Oui, c'est ça. Ouais. Qui va dire oui et qui va faire des compromissions. Un autre Français qui s'interroge aussi sur son statut de cinéaste au travers de son personnage Amine, c'est dans Mektoub My Love, Canto Doué d'Abdelatif Kechiche, sorti en décembre 25, mais tourné en 2018. Amine revient à Sète après des études à Paris, rêvant toujours de cinéma, un producteur américain en vacances, s'intéresse par hasard à son projet, les principes essentiels de l'existence universelle, et veut que sa femme Jess en soit l'héroïne, mais le destin capricieux impose ses propres règles.
Ça va ?
En vacances,
ouais, tu vas faire la fête un peu, hein ?
Ouais, on va sortir.
Donc vous êtes tous ici, du coup.
Qu'est-ce natif de Sète ?
C'est mon petit cousin, il écrit des scénarios, il fait de la photo.
C'est mon futur copain, moi. Jessica Patterson, elle vient d'arriver avec son mari.
Ah, elle est moins belle qu'à la télé. Moi, je m'attendais à mieux.
Oh, c'est fille, alors. Bon.
Amine, he wants to make cinema.
I will read his screenplay.
And we'll make a big couscous for you.
Le fameux ami.
Thank you, nice to meet you.
I've never read anything like this before.
In fact, I'll do my turn.
In water.
Oh, cool. At the same time.
Il y a une journaliste qui a dit à propos de ce film, j'aime beaucoup cette formule, je la trouve très juste. C'est une histoire qui ne pourrait pas être racontée autrement qu'au cinéma. Mektoub, ouais. My Love, Canto Doué.
Oui, moi je suis très sensible, peut-être d'une manière un peu naturelle, mais envers des cinéastes qui exécutent sur l'écran, qui font sur l'écran des choses dont je ne suis pas capable. Moi, vous me donnerez 3000 jours de tournage, je ne pourrais jamais faire un Mektoub.
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a que vous ne savez pas faire ?
Parce qu'il y a un secret que je ne comprends pas. Enfin, moi je ne comprends pas comment obtenir une telle vivacité et comment toucher et creuser et fouiller à l'intérieur du chair pour finalement toucher l'âme, comme fait, je pense, Kechiche dans chacun de mes films. Comment être à la fois dans l'instantané et le plus et l'intemporel. Enfin, le film, je pense que c'est à la fois, je ne vais pas dire de banalité, mais une chanson populaire et la musique classique.
Ouais.
Et d'ailleurs, je pense qu'il utilise justement ces deux genres de musique. Et cette capacité aussi de magnifier toujours le quotidien, de magnifier
les corps aussi,
de magnifier les petits moments de la vie, de transformer. Tout devient à la fois pour moi vivant et mythologique dans un film de Kechiche. Je ne sais même pas comment commencer à faire un film pareil, donc je regarde comme le spectateur le plus admiratif.
C'est un film sur le regard aussi. C'est un garçon qui regarde à la limite du voyeurisme.
Oui, qui regarde et qui a l'impression qu'il va peut-être jamais finalement passer un acte.
C'est ça.
Oui.
Et vous vous sentez comme ça aussi ? Vous vous sentez, vous, voyeur, en faisant du cinéma, Nadav ?
Disons que je pense que mes films tournent autour de l'omnipuissance et de l'impuissance.
Oui.
Et pour quelqu'un comme moi, qui est né déjà, qui fait déjà partie d'une génération de cinéastes, qui depuis leur premier film entend tout le temps parler du déclin du cinéma, de la chute du cinéma, de la fin du cinéma, de la mort du cinéma. Donc, ces côtés est à la fois magistral et pitoyable, ces mélanges entre l'omnipuissance et l'impuissance, c'est une évidence.
Mais vous n'y croyez pas à la fin du cinéma ?
Moi, je ne sais pas, enfin, je ne peux pas prévoir, mais je pense que si on vit le dernier jour du cinéma, le dernier moment du cinéma, ça doit justement nous donner... Il faut le vivre un peu comme les derniers jours de Pompée, quoi. Il faut aller au bout de la décadence, de la folie, de l'hédonisme. Il y a de toute façon, si on est en train de crever... Il faut que notre mort soit inoubliable.
Lui, en Iran, il s'interrogeait, puisqu'il n'est plus là, aussi beaucoup sur le cinéma ou la vie, où commence l'un, où s'arrête l'autre. C'est Abbas Kiarostami avec ce film, Au travers des oliviers. C'était important de choisir un film iranien, dans ce contexte de guerre d'ailleurs. Au travers des oliviers, dernier de la trilogie, après Où est la maison de mon ami et La vie continue.
من محمد علی کشاورز هستم، بازیگر که در این فیلم نقش کارگردان رو بازی میکنم. سایر بازیگران همه محلی هستن. ما الان جلوی یه مدرسه تازه ساز هستیم برای اینکه یه بازیگر دختر انتخاب بکنیم.
C'est très beau, et ce film Au travers des oliviers, très accessible, avec une dramaturgie apparemment simple. Un homme et son équipe tournent un film dans les coulisses, sont presque plus passionnantes que le film. On est en Iran, après le tremblement de terre, et en parallèle, il y a l'amour fou du jeune acteur pour l'actrice, et dans la vraie vie, tandis que les habitants, eux, ne transigent pas avec le réel.
Oui, moi, d'abord, comme vous l'avez bien dit, dans ces contextes de bombardement, de guerre, etc., pour moi, c'est aussi important de dire. Moi, quand j'ai découvert le cinéma à Paris, plus ou moins l'an 2000, Kiarostami, c'était la grande force du cinéma, c'était le géant du cinéma. Kiarostami était pour moi, c'est qui, je ne sais pas, je pense que Rossellini était pour Godard, par exemple.
Oui.
Et je portais mes yeux. Et le cinéma iranien, en général, était le cinéma le plus, toujours puissant, mais à l'époque, le cinéma le plus moderne, les plus étonnants, et qui n'arrêtaient pas de un, comme les films de Kiarostami, qu'on peut lier au modernisme, qu'on peut lier au Rossellini, mais qui finalement créent du jamais vu et créent un mélange qu'on ne savait pas qu'il existait. Et donc ça, c'était le cinéma qui m'a ébloui, qui m'a façonné à l'époque. De Kiarostami, il y a à l'infini. Moi, j'ai choisi ce film-là justement parce que je pense que le film se termine avec peut-être la vous avez parlé de l'amour fou, c'est exactement ça. Vraiment la plus belle description que j'ai vue dans le cinéma d'un amour désespéré.
Exactement, c'est ce que je me suis dit en voyant ce plan final qui est complètement hypnotique, quoi.
Oui, c'est cette personne qui n'arrive pas qui ne peut pas accepter le fait aussi simple et aussi désastreux d'aimer quelqu'un alors que l'autre ne l'aime pas.
Et de ne pas être aimé en retour. Ouais. Mais c'est une vertigineuse mise en abîme du cinéma aussi, Kiarostami. C'est le vrai, le faux, la vérité, le cinéma.
Oui.
Ça a l'air apparemment simple, non. Mais derrière, il y a tellement de questions.
Non, évidemment. Et je trouve que c'est intéressant. Comme vous l'avez dit, c'est un film qui parle d'un tournage, comme pas mal de films de Kiarostami d'ailleurs. Un tournage, il y a l'intérêt de l'équipe, et je pense que le cinéma a cette tendance, évidemment, de se méfier ou d'avoir extrêmement peur de films qui parlent sur des cinéastes, comme s'il veut éliminer lui-même. Comme si, de la même manière, je pense que le cinéma veut qu'on oublie qu'il y a tout le temps une caméra.
Oui.
Il y a tout le temps. On veut nous faire croire que le film est né, je ne sais pas, de la mousse des vagues. ou qu'il n'avait pas.
Alors que lui, au début, il dit voilà, je suis cinéaste, je vais choisir les actrices.
Exactement. Et dans les films tournent autour du tournage d'un film. Et donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Moi aussi, dans mes films, parfois, il y a des cinéastes.
Oui.
Et surtout, moi, je trouve que le fait que un film est un film, pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui aliène. Pour moi, c'est quelque chose qui rend la chose encore plus, finalement, émouvante. Vraie émouvante. Et qu'on peut aller au bout d'une vérité du monde seulement en allant au bout d'une vérité du cinéma. D'abord, il faut aller au bout d'une vérité du cinéma et espérer qu'on va trouver à l'intérieur aussi le monde.
Et moi, je me faisais la réflexion, pardon, c'est un peu personnel, mais en revoyant le film, en me disant « Mais c'est dingue de faire du cinéma là-bas. » C'est-à-dire être dans les montagnes avec ces paysans qui n'en ont rien à fiche du cinéma et tout d'un coup trouver, créer du cinéma dans la montagne, quoi, non ?
Tout à fait. Faire un plan séquence qui dure autant que ça dure à une jeune femme de descendre cette montagne.
Et c'est captivant en même temps.
Oui, où vous avez l'impression qu'on n'a jamais posé une caméra.
C'est ça. On va passer maintenant à un autre sacré phénomène, celui-là. C'est un auteur mexicain qui s'appelle Carlos Regadas. Son troisième film, Lumière silencieuse.
non è con le titre idrea.
Dass du bringst in dir und du nicht dann ziehen.
Amen. Dort sind wir bei 2 Jahren.
Weit erst der Wort gehauen.
Ich sehe das auch von Anfang an. Dann muss ich von dir entscheiden muss. Und für die Gleichen da.
Lumière silencieuse, donc Carlos Regadas, Johan et les siens sont des ménonites du nord du Mexique. Le ménonisme est un mouvement religieux chrétien protestant très proche du mouvement Amish, qui se caractérise par un refus radical du progrès technique notamment. En contradiction avec la loi de Dieu et des hommes, Johan, marié et père de famille, va tomber amoureux d'une autre femme. C'est le pitch de ce film contemplatif.
Oui, moi j'ai... Encore une fois, du point de vue très personnel, mais moi, quand je commence à penser un nouveau film, ou avant, quelques mois avant le début du tournage, je vais me déplacer ou déplacer mon cerveau à un univers de plans, des séquences, du cinéma, des images, etc. Et donc, je commence à visionner énormément de films, 8 films par jour, 7 films par jour, mais je ne regarde pas en entier, je regarde souvent muet, accéléré comme ça, pour essayer de voir la squelette, pour essayer de voir la radiographie. Et quand on fait cette tentative, ce test, on se rend compte du fait, évidemment, que 99% des films sont plus ou moins les mêmes films. Et parfois, on appelle une personne Jeanne, et parfois c'est Joanne, et parfois c'est Joël. Mais finalement, c'est toujours oui, les gros plans, plan 2, on voit en fait la même chose. Et il y a à peine 1% qui est complètement différent. Et moi, je suis toujours rempli de gratitude à cet 1%, parce que ça me déchire du plus grand danger, je pense, qui guette un cinéaste, de tomber à la bureaucratie du cinéma, de commencer à faire du cinéma bureaucratique, de commencer à cocher une sorte de liste des tâches. Parce que le cinéma peut être évidemment l'art le plus vivant au monde, mais aussi le plus mort. Et je pense que beaucoup de films sont morts avant qu'ils soient nés. Ou peut-être la majorité. Et dans cette liste-là, Carlos Regadas, c'est vraiment un des seuls qui arrive chaque fois de nouveau à me rappeler la sainteté du moment qu'on filme.
C'est religieux ?
C'est ce sentiment que vous filmez quelque chose pour la première et pour la dernière fois.
Ah oui.
Et chez Regadas, il y a dans cette film, par exemple, une scène où des enfants se baignent dans un petit lac. Donc, pour moi, chaque plan, désolé encore une fois d'être si religieux, je sais que c'est un pilier laïque, mais j'ai l'impression que chaque plan a été touché par Dieu. Et donc Regadas, c'est pour moi clairement un des plus grands cinéastes du siècle.
Vous vous sentez démiurge, vous aussi?
J'ai grandi dans une famille très laïque. Ma mère était vraiment. Donc j'ai pas. Mais de plus en plus, je me permets, et pendant les tournages et en parallèle, je permets ma caméra de tourner vers le ciel.
Et pour conclure, alors là, lui, c'est aussi un fou dans son genre, un dingue. Je me rappelle, Laurent, vous aviez vachement aimé ce film. C'est le cinéaste roumain, Radu Jude.
Sacré cinéaste.
Avec ce titre incroyable, n'attendez pas trop. De la fin du monde. Alors, le synopsis, c'est Angela, assistante de production, qui parcourt la ville de Bucarest pour le casting d'une publicité. Elle doit recueillir des témoignages d'invalides ayant subi de graves accidents du travail. Elle va rencontrer dans son épuisante journée, de grands entrepreneurs, de vrais harceleurs, des riches, des pauvres, des gens avec de graves handicaps et des partenaires de sexe, son avatar digital et une autre Angela, sortie d'un vieux film oublié. Donc il y a plusieurs récits dans ce film sur l'exploitation, la mort, les images. On écoute un extrait.
Mă numesc Ovidiu și pe data de 24 noiembrie 2020, o mașină Dacia 1310 se apropia din față. Și fără să vadă bariera aceea, a intrat în ea. Și mașina, lovind bariera, a sărit de la locul ei și m-a lovit în cap. Am intrat în comă, am stat în comă un an și o lună.
ce film est absolument dingue. N'attendez pas trop de la fin du monde, Radu Jude. C'est un film qui dit en gros que 40 ans plus tard, la Roumanie n'a pas trop changé. Le communisme contre le consumérisme.
Oui, je pense qu'avec Radu, je pense qu'on partage beaucoup de choses. Mmh. Je pense qu'on partage cette sensation de vivre le monde comme un chaos et ce désir d'aller au bout de ce chaos. Et cette foi qu'un film qui veut aller au bout du chaos doit être chaotique lui-même, qu'un film qui veut parler de l'impureté doit être impur, que des films ne peuvent pas s'exempter des maladies de leur propre temps, qu'on ne fait pas un film dans un laboratoire et en regardant à travers des vitres les gens, mais que les films doivent être pollués, contaminés. Et
j'ai l'impression que vous parlez de votre film, là.
Un peu malade.
Oui,
et je pense qu'on a les deux aussi ce petit côté punk. Mais pour nous deux, je pense que le côté punk, c'est à la fois...
lucide.
C'est à la fois un acte lucide, conscient, etc. Mais c'est aussi un peu, encore ce geste, un peu d'adolescent qui ne peut pas se priver de donner encore un dernier coup de pied, je ne sais pas, dans les vitres d'un magasin de luxe.
Faire le garnement.
C'est ça. Et aussi, je pense, un sentiment dont on a un peu parlé, parce que aussi, on est un peu amis, qu'il y a probablement quelque part un autre cinéma qu'on n'a pas encore découvert. Un peu comme les continents. Un jour, on a découvert l'Amérique. Bon, il y avait l'avènement, mais en fait, on vivait une vie entière sans, je ne sais pas, Dante a écrit, sans savoir qu'il y a l'Amérique. Un jour, il y avait l'Amérique. Donc, un jour, on découvrira cet autre cinéma. Et à ce moment-là, on nommera notre cinéma à nous, je ne sais pas, le cinéma préhistorique ou le cinéma ancien. Et moi, je ne veux pas faire partie du cinéma. Enfin, je suis trop curieux de connaître déjà le nouveau cinéma, l'autre cinéma. Donc, enfin, je ne vais pas être considéré comme un des représentants du cinéma ancien. Donc, il y a tout le temps cette volonté de le trouver. Il est toujours quelque part. Donc, il y a une sorte d'insatisfaction permanente. On n'est jamais, jamais apaisé. Et donc, il y a tout ça. Et à part ça, je pense que Radu, ça c'est différemment, je pense, de moi. Je pense qu'il a une force d'analyse tellement rare. Je pense en Perle, en Star de Godard, mais différent. Et ce film-là est aussi extrêmement existentiel. Enfin, pour moi, c'est un film qui est à la fois aussi comparable au film comme Taxi Driver.
Nadav Lapid, description d'un combat, c'est un livre aux éditions de l'Œil dans lequel Radu Jude intervient d'ailleurs. Vous promenez encore votre film, oui, vous allez le présenter au Luxembourg et bientôt en Amérique, ça va être quelque chose. On se retrouve après Swad Massi et Gaël Faye, d'ici de là-bas, c'est un peu vous d'ailleurs.
Par les vents. Donne-moi un printemps. France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Laurent, on va commencer ses sorties avec ce film « Allah n'est pas obligé », qui est un film, premier film d'animation signé Zaven Nadjar. Biraïma, orphelin guinéen d'une dizaine d'années, doit quitter son village pour tenter de passer la frontière et retrouver une tante qui serait installée au Liberia. Le jeune garçon se met dans les pas de Yakuba, bonimenteur de grands chemins, jouant les guides de substitution, mais sur la route, la rencontre avec des enfants soldats fait basculer son destin. C'est une victime qui se transforme en bourreau au milieu de ce sujet ultra sensible qui rejoint la réalité. 50 000 enfants enrôlés dans les deux guerres civiles qui ont ravagé le Liberia et la Sierra Leone. Récits initiatiques et documentaires. L'animation serait-elle la forme adéquate pour un tel sujet, Laurent ?
On peut le penser en voyant ce film, en tous les cas, qui est extrêmement exigeant, qui part d'un roman qui a obtenu le prix Renaudot et le prix Goncourt des lycéens en 2000. Et c'est dans ce roman où il y a cette formule « Allah n'est pas obligé d'être juste dans toutes ces choses ici-bas hein, ». C'est l'explicitation du titre. Donc c'est un vrai propos, vous le disiez, très politique, mi-documentaire, mi-fiction, et ça c'est très très bien tenu, je trouve, dans le film, avec une animation dont on a un peu scrupule à dire qu'elle est magnifique, mais c'est vrai, c'est-à-dire que la force du propos est renforcée par la force de l'animation, sa très très grande beauté visuelle, plastique, esthétique, et je trouve que c'est vraiment un pari extrêmement réussi. Alors attention, hein, on n'est pas chez Kirikou, hein, le film est interdit au moins de 12 ans,
oui.
Parce que les réalités qu'il décrit sont suffisamment fortes pour qu'il faille, hélas, éloigner les enfants, même si on sait bien qu'ils sont capables de voir de pires horreurs sur les petits écrans. Mais c'est comme ça. Il faut dire aussi que le film est en quelque sorte prolongé par une BD chez Dupuis et qu'elle est tout aussi magnifique que le film.
Deux femmes et quelques hommes de Chloé Robichaud, remake de Deux femmes en or, film érotique culte au Québec. Violette et Florence sont voisines de palier et s'observent. L'une en congé maternité est à fleur de peau, l'autre en arrêt de travail, ne ressent plus rien. Leur rencontre bouscule soudain leur quotidien monotone et leur regard sur les hommes. Une comédie de mœurs avec l'accent québécois entre humour et sérieux.
Oui. Alors, c'est assez curieux quand même d'aller prendre sa source dans un film des années 70, Deux femmes en or, qui est d'ailleurs un des plus gros succès commerciaux du cinéma québécois de tous les temps. C'est quand même assez curieux parce que c'est un tout petit film érotique de pas grand-chose et plutôt d'ailleurs avec les défauts de ce genre de production. Alors évidemment, il s'agit de prendre à rebours ce cinéma érotique et d'en faire un propos beaucoup plus féministe, soyons clairs, et c'est pas difficile. J'ai l'impression d'assister à la même tentative que le récent Emmanuel en France, hein, et pas certain que ça soit une bonne formule de prendre de la distance à l'égard de ce cinéma, parce que à l'origine, il y a quand même un film qui n'a aucun intérêt. Donc, à force de faire le malin avec un remake, on finit par s'y perdre.
Pillion, premier film signé Harry Lighton. Colin, un jeune homme introverti, rencontre Ray, le séduisant et charismatique leader d'un club de motards. Ray l'introduit, si je puis dire, dans sa communauté de motards gays de la banlieue de Londres. Et c'est vrai que c'est marrant de filmer cette relation de domination comme une comédie sentimentale classique. C'est à la fois cool et violent, comme l'humeur changeante du héros.
Oui, alors les premières scènes du film font craindre le pire, ou presque on croirait être dans un énième film sur la relation maître-esclave. C'est dire s'il y en a eu, mais si le cinéaste épuise d'abord quelques clichés et situations convenues, c'est pour mieux ensuite, effectivement, les dynamiter, du moins les relativiser. Parce qu'au fil du film, la relation entre les deux protagonistes masculins se complexifie absolument. Comme s'il s'agissait d'une relation plus banale qu'il n'y paraît, fondée sur un échange de désirs et de besoins, comme dans toute relation amoureuse, comme dans toute relation sociale. Et c'est ça qui fait le prix, le poids et tout l'intérêt du film.
Fantastique, de la documentariste néerlandaise Marjolien Prins. Fanta, une contorsionniste de 14 ans, vit à Conakry en Guinée, dans une communauté d'artistes issus des bidonvilles. À force de jongler quotidiennement entre l'école, le soutien à sa famille et ses entraînements au sein de la troupe où elle est l'une des rares filles, Fanta commence à douter de son rêve le plus cher. Un portrait tendre dans une réalité sociale très complexe, Laurent.
Oui, c'est un très beau documentaire d'une cinéaste hollandaise qui est en immersion avec cette Fanta, qui donne évidemment son nom au film, fantastique, le jeu de mots est un peu facile, mais en même temps, c'est vrai que ce parcours est fantastique, parce qu'il est semé d'embûches, il est semé de désillusions, il est chaotique au possible. On imagine dans cette Guinée, et à son âge, elle a 14 ans, Fanta, et ben il en résulte en même temps une formidable leçon d'optimisme, d'enthousiasme, avec des grands moments aussi lyriques et de découverte de la nature. Et on partage cet enthousiasme, et il faut pas le bouder, on regarde ce film avec beaucoup de plaisir.
Avant de réaliser Truman Capote, le stratège, ouais. J'adore ce film, Foxcatcher, eh bien, sort le premier film de Bennett Miller, réalisé en 78 et inédit en France, sur Timothy Spidlevitch, guide touristique excentrique new-yorkais, Laurent, dans un New York pré-11 septembre.
Oui, alors il ressemble à Bob Dylan, hein, ce Speed, hein, Speed pour la vitesse de son débit, la profusion de ses mots, son lyrisme, sa capacité permanente à réinventer le réel, son érudition aussi qui est formidable. Il faut l'entendre, par exemple, divaguer, si je puis dire, sur les buildings de New York dont il dit qu'il lui procure une émotion phallique, et il faut voir la tête des touristes qui l'écoutent à ce moment-là. La réussite est totale parce que c'est l'alliance d'une caméra portée à l'épaule, hein, du réalisateur, et puis l'éloquence de ce Speed, et ensemble, tous les deux, bah, ils révolutionnent simplement New York.
C'est quoi un film jubilatoire ? C'est un film qui part d'une idée folle, un homme croise son sosie en mieux, mais personne à part lui ne s'en aperçoit, et qui va jusqu'au bout du bout de son pitch, quitte à tordre le cou à cette fable existentielle, un film qui rit de nos névroses, et doublement interprété par un acteur transformiste, Laurent Lafitte. Et ce film jubilatoire, c'est Alter Ego de Nicolas et Bruno.
Je ne peux qu'approuver, avec en plus Blanche Gardin et Zabou Breitman en auxiliaire féminine extraordinaire. Ouais. Non, c'est un immense plaisir ce film.
Pédale rurale, un titre qui ne mâche pas ses mots, d'Antoine Vasquez. Benoît vit en Dordogne, à quelques kilomètres du village où il a grandi. Il a construit son paradis à l'abri des regards, s'est émancipé à sa manière. Seul dans la nature, avec ses couleurs, il a trouvé ses manières de résister, de s'affranchir des stigmates du passé pour continuer à habiter ce coin, et décide d'organiser une pride, carrément, en pleine campagne.
Oui, alors en fait, il y a une première partie qui est le portrait intime, quotidien, de ce Benoît, la façon dont il a finalement élaborer des stratégies pour vivre à l'écart tout en vivant et sa sexualité et le fait qu'il est dans un environnement rural. Et puis il y a cette deuxième partie où il rencontre un collectif qui a cette idée folle, sans jeu de mots, d'organiser la première Pride, Gay Pride dans le Périgord vert, tout un programme, en ruralité donc. Et Benoît semble alors mieux assumer tout simplement son identité à travers cette expérience collective. C'est cette transformation en quelque sorte positive, qui fait aussi tout le prix du film.
Rural, Édouard Bergeon, qui ne lâche pas l'affaire sur le monde paysan, il a raison, avec ce documentaire qui nous plonge dans la vie de Jérôme Bail, éleveur charismatique du Sud-Ouest et figure nationale de la ruralité. Avec humour et tendresse, il dresse un portrait de l'agriculture familiale française d'aujourd'hui et de ceux qui se battent pour la faire perdurer.
Oui, alors absolument, cette armoire à glace qui s'appelle Jérôme Bail, qu'on verrait bien aussi sur un terrain de rugby, et il en a fait, cet éleveur dont le père s'est suicidé, victime du mal-être agricole, comme le père du réalisateur Édouard Bergeon.
Ah oui.
Et ben oui, et finalement on trouvera ce dernier, Édouard Bergeon, plus à l'aise dans ce portrait, avec la distance nécessaire, plus à l'aise que dans la fiction qu'il avait consacrée à ce père et à cet épisode évidemment dramatique de sa vie. Et il fait un documentaire bien sûr très empathique, mais absolument instructif sur la façon dont vivent en ce moment les paysans français, à qui on a récemment dédié un César et on a bien eu raison. Et il faut voir ce film pour bien comprendre les enjeux et pour être tout près de ce Jérôme Bail, sa mère, le petit garçon aussi qu'il est en train de former pour devenir lui-même éleveur. C'est à la fois très émouvant et très instructif.
Et pour compléter cette trilogie paysanne, le retour, la rétrospective de Depardon, paysan, profil paysan, l'approche, le quotidien, la vie moderne.
Trois documentaires, trois chefs-d'œuvre, trois petites merveilles d'écoute, de sensibilité, de mélancolie, de nostalgie, mais aussi de combativité. Le tout sur la musique, par exemple, de Gabriel Fauré et les paysages uniques des Cévennes françaises. C'est absolument magistral.
Alors, une minute pour les festivals et les cadeaux. Un festival, moi, qui me tient beaucoup à cœur, oui. C'est Les Monteurs s'affichent. 7e édition du 11 au 16 mars au cinéma Le Lumineur à Paris. Et Laurent, le deuxième.
Et le deuxième, ce sont les rencontres rencontre du cinéma latino-américain, 43e édition s'il vous plaît, ça se passe du 11 au 15 mars au cinéma Jean Eustache à Pessac, avec un très beau thème central, justice et politique. On pourra y croiser Gabriel Mascaro, vous savez, le réalisateur des Voyages de Teresa qu'on a tant aimé.
Ah oui ?
Oui, absolument.
Et deux cadeaux pour bon, Nadav Lapide.
On ose offrir des films à Nadav Lapide, après tout ce qu'il vient de nous dire. Mais tant pis, on ose le genre. On ose le genre, par exemple, du giallo. Le giallo avec cette, la tarentule au ventre noir. Tenez-vous bien, 1971 de Paolo Cavara, édité chez Carlotta. C'est un combo 4K et Blu-ray. Oui, c'est un pur giallo, avec évidemment, en plus, la musique d'Ennio Morricone.
Ah ouais.
Et puis, on retrouve plus un cinéma grand, classique, mélo, formidable, Les Chevaux de Feu, de Sergueï Parajanov, le russe, 1966, qui est en Ukraine, cette fois, avec un mélo incroyablement lyrique et flamboyant, et c'est chez Carlotta. Voilà.
Merci Nadav Lapide, avec cette belle carte blanche, vous retrouverez tous les titres de ces films.
Merci.
Sur notre site. Signalez aussi le livre qui vous est consacré, Nadav Lapide, Description d'un combat, aux éditions de L'Œil, et bonne tournée, notamment en Amérique, avec votre dernier grand film, qui s'appelle Oui. Merci à notre équipe, Valérie Ayestaraï à la réalisation, Benjamin Ducy à la préparation, et Thierry Dupin à la programmation musicale. Bon retour parmi nous, Thierry. Et aux manettes ce matin, Julien Thévenot.
C'était On aura tout vu sur France Inter.